RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et c'est le retour du week-end des experts, les animaux, sur RMC. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui m'accompagne pour cette deuxième partie dédiée aux animaux. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra avec toutes vos questions auto, bien entendu. Laetitia, tout à l'heure, pour terminer, ce sera notre vidéo LOLCAT. On a trouvé une vidéo très très drôle qu'on va vous poster sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Un chien qui a pour mission de rafraîchir son maître. Et il le fait à la perfection. Et c'est vraiment une vidéo très très drôle. On vous en parlera tout à l'heure. Mais d'ici là, Laetitia, on va s'intéresser en fait à des histoires sympathiques liées aux animaux pour cette deuxième partie.
Voilà, une deuxième partie légère, très vacances. On aime bien les belles histoires d'animaux.
Mais bien sûr.
Alors on a des invités qui ont beaucoup d'histoires à vous raconter sur les animaux. Et pour commencer, les animaux célèbres avec Marie-Hélène Bella, qui est auteure de Histoire des animaux célèbres aux éditions Perrin. Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, dans ce livre, vous êtes partie sur les traces des animaux qui ont fait l'histoire avec un grand H quand même. Alors, ce sont souvent des animaux célèbres parce qu'ils appartenaient ou ils appartiennent à des personnes illustres. Alors, d'après vous, si, sans cet animal, certaines de ces personnes auraient eu une destinée différente. Alors, à commencer par Alexandre le Grand ou même Hannibal.
Oui, absolument. Alexandre n'aurait pas été le grand conquérant qu'il a été s'il n'avait pas eu Bucéphale, ce cheval dont son père ne voulait pas parce qu'il était complètement rétif. Il semblait absolument impossible de le dompter. Et Alexandre a tout de suite vu qu'en fait, le cheval était gêné par son ombre. Donc, il l'a bougé pour le mettre face au soleil. Il l'a flatté, il l'a enfourché. Et puis, finalement, il est revenu sous les applaudissements. Et son père lui a dit à ce moment-là, il faut que tu réussissent à conquérir un royaume qui soit digne de toi, la Macédoine n'est pas suffisante. Et Alexandre est parti donc à la conquête du monde, de la Grèce vers l'Égypte et jusqu'en Inde. Donc c'est un destin absolument fabuleux et sa vie a été complètement liée à Bucéphale. Il ne pouvait pas imaginer de faire ses conquêtes sans Bucéphale. C'est pareil pour Hannibal. On sait bien comment Hannibal a franchi les Alpes avec ses éléphants. On pense qu'il y en avait 36-37. On n'est pas absolument certain. Et quand il est arrivé de l'autre côté, donc en Italie, ces animaux étaient très précieux parce que ils servaient bien sûr pour transporter, pour enlever les obstacles. Mm-hmm. Et surtout, ils faisaient très peur.
Oui.
On connaissait
à
pas.
À l'époque.
Voilà, ces animaux.
Oh, même aujourd'hui, on imagine un troupeau d'éléphants arriver sur qui charge sur arriver sur Paris.
Ça fait un peu peur.
Ah oui, ça serait terrible. En fait, ils sont quand même assez fragiles. Hein. Ils peuvent se retourner contre ceux qui les montent. Bon, enfin, quand ils sont arrivés, les Carthaginois sont arrivés de près de Rome, dans l'Arno, il ne restait plus qu'un éléphant. C'était donc Sourou, qui était l'éléphant préféré d'Hannibal. Et Hannibal a pu traverser les marécages grâce à Sourou. Alors même qu'il souffrait des yeux terriblement, il devait perdre un œil d'ailleurs dans cette traversée. Donc son nom est complètement lié à celui de Sourou. C'est vrai, complètement.
Alors, plus proche de nous, Napoléon, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il doit aussi beaucoup à ses chevaux. Et pourtant, il n'était pas... Il était un piètre cavalier quand même, Napoléon.
Oui, enfin, il était surtout un cavalier peu élégant parce qu'il passait des heures à cheval. Il était très, très endurant et souvent au galop. Oui. Mais il montait très mal et notamment, il n'arrivait pas à s'adapter au rythme du cheval. Il était toujours décalé, puis il lui arrivait de tomber. Alors, on lui donnait, alors, il ne montait que des entiers, c'est-à-dire des chevaux non castrés.
Ah, c'est pour le prestige, ça,
voilà.
Aussi.
Mais on les lui fatiguait, disons, et on les dressait pendant très longtemps avant de les lui remettre entre les mains. Alors, il y en a eu deux, surtout, parce que on estime que durant la vingtaine d'années où il a monté, où il a conquis l'Europe, il y a eu à peu près 130 chevaux qu'il a montés régulièrement. Il y en a deux qui sont vraiment restés dans les mémoires, ce sont Vizir et Marengo. Marengo qu'il a dû abandonner le soir de Waterloo.
Ah bon ?
Oui, et qui a fini en Angleterre, où on l'exhibait partout.
Ah oui, c'est un peu le trophée, finalement.
Un vrai mythe. Mmh. Et aujourd'hui, on peut encore voir son squelette au musée de l'armée à Chelsea.
Non, le cheval de Napoléon.
Et même un de ses sabots qui a été transformé en cendrier.
Étonnant.
Alors, alors encore plus proche, hein, vous consacrez un chapitre entier au chien des présidents français. Alors, c'est vrai que depuis Pompidou, je crois bien, chaque président a des... Alors, ce sont souvent en plus des labradors. Alors, on connaît tous Baltique, hein, le labrador de François Mitterrand. Il y en a eu d'autres aussi.
Oui, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, Baltique est sans doute celui dont on a parlé le plus. Il y a eu des livres qui ont été consacrés. Il y a une statue encore, hein, aujourd'hui, à Souston, près de Latché, de François Mitterrand avec son chien. C'est un chien très très mal élevé.
Et puis, ah bon ?
Il jouissait d'une impunité totale. Il allait dans les cuisines de l'Élysée, il mangeait le beefsteak, on disait rien.
Oh mon Dieu. Mais, c'était le chien du président.
C'est un fugueur aussi, je crois bien.
Comment ?
C'était un fugueur aussi.
Un fugueur, ah oui, oui. D'ailleurs, ceux de Valéry Giscard d'Estaing aussi, à chaque fois, ça mettait tout le palais de l'Élysée en émoi, parce que les présidents étaient très fâchés. Et Valéry Giscard d'Estaing a été peut-être, en fait, est sans doute un grand amateur et celui qui a le premier médiatisé ces chiens. Il y en a un, notamment, qui a laissé aussi dans les mémoires quelque chose d'amusant, c'était le Samba. Oui. Un jour, Margaret Thatcher, le premier ministre britannique, était en visite à l'Élysée et le chien rentre dans la pièce, il saisit son sac à main. Et Valéry Giscard d'Estaing était bien sûr gêné. Il explique que c'était un chien que lui avait offert la reine d'Angleterre, ce qui était vrai. Et Margaret Thatcher réplique de tac au tac que c'est un chien anglais mais élevé en France.
Oh. Voilà. Ah, ça c'est bien envoyé, hein, quand même.
Oui, non, vraiment. Mais il y en a eu d'autres. Ben, notre président actuel a fini par sacrifier, je dirais, la tradition en adoptant Philae.
Et oui.
Il y a aussi un petit labrador.
Mais enfin, c'est des labradors qui sont souvent donnés aussi par...
Tout à fait, oui.
Par le Canada, je crois bien.
Oui, oui, Québec. Là, c'était par le Canada. Et les Canadiens en donnent souvent.
Oui, oui.
C'est une sorte de tradition.
Mais est-ce que les chiens ont un impact sur la cote de popularité des politiques?
Alors, je ne dirais pas qu'ils ont un impact direct, même si c'est très important, qu'ils sont devenus des sortes d'outils de communication, une façon de montrer que le président est un homme normal, qui s'intéresse comme ses concitoyens au quotidien. Mais, on parlait de Philae. Le président l'a baptisé de ce nom, pas par hasard, c'est ça, sur le conseil de ses hommes en communication, le nom de ce petit robot qui s'est posé avec succès sur la comète Tchoury. Donc c'est une façon de dire « je vais de l'avant
»,
un président
qui s'amène
vers le
com,
progrès, sa cote de popularité n'en est pas remontée pour autant.
Mais c'est comme le président Obama, avec son first dog.
Oui, comme la first lady, c'est vraiment une institution de la Maison Blanche. Et au départ, les Obama n'avaient pas de chien parce qu'une de leurs filles est allergique aux poils de chien. Mmh. Alors, il fallait quand même trouver un chien parce que
Clinton, il avait eu
un président qui n'aime pas les chiens n'est pas digne d'entrer à la Maison Blanche.
Ils ont trouvé un chien
hypoallergénique,
voilà. C'est ça. Hein.
Voilà, exactement, qui est beau, qui est un chien d'eau portugais.
Oui.
C'est une race assez rare.
Oui, mais qui commence à être connue en France grâce à la famille Obama, justement.
Voilà, exactement. Et alors, c'est amusant parce qu'en 2013, par exemple, les cartes de vœux de la Maison Blanche étaient signées Beau.
Ah oui, c'est le nom du chien.
Ah oui, oui, oui. Et il a son site sur, bien sûr, sur le site de la Maison Blanche, mais il a aussi son compte Facebook, son compte Twitter. Enfin, c'est vraiment une institution importante.
C'est sûr.
C'est étonnant. Hein,
c'est
quand
étonnant
même.
Quand même. Ouais. Bah là, ce sont des animaux qui sont célèbres grâce à leur maître. Alors, vous avez aussi des animaux héros de guerre qui ont été médaillés.
Oui, oui, parce que les certains animaux rendent de grands services. Et on a pris l'habitude, surtout à partir de la Première Guerre mondiale au XXe siècle, de leur attribuer des médailles. Je pense par exemple à Vaillant, qui est un pigeon voyageur, qui est le dernier à avoir donné des nouvelles du fort de Vaux avant qu'il ne tombe à Verdun, et il a reçu la bague de la Légion d'honneur.
Ah, la bague ?
Oui, voilà.
Elle est en or, j'espère.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une Anglaise a créé une médaille, c'est la médaille Deakin, qui est attribuée à des animaux, et d'ailleurs je crois que le dernier chien à l'avoir reçu, c'est l'année dernière, un chien en Afghanistan, un chien renifleur. Qui détectait les obus.
Alors Marie-Hélène, vous restez avec nous, on va faire une petite pause sur RMC et on revient parce que on a encore plein d'animaux à découvrir, hein, des animaux de personnalité, Laetitia. Mmh. Qu'est-ce qu'on a ? On pourra voir le guépard de Joséphine Baker, le chimpanzé de Michael Jackson, il y en a plein. Hein. Donc voilà, Marie-Hélène reste avec nous. On revient dans un instant. 3216 animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour à vous toutes et à vous tous si vous venez de nous rejoindre. On salue aussi tous ceux qui travaillent ce dimanche matin et qui sont avec nous. Merci d'être là. Laetitia, dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos de 7h30. Mais en ce dimanche matin, en pleine torpeur de ce mois d'août, on se fait plaisir. On découvre de belles histoires liées aux animaux. Et là, on évoque les animaux de personnalité.
Voilà, et on est avec Marie-Hélène Bellat, qui est auteure de Histoire des animaux célèbres, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Alors, vous avez parlé de Joséphine Baker.
Oui.
On savait pas qu'elle avait un guépard.
Ah si, elle avait un guépard. C'était le directeur du casino de Paris qui le lui avait offert et elle en jouait beaucoup parce que, alors on voit des affiches notamment où il y a Joséphine et en face d'elle le guépard qui lui offre un bouquet de fleurs. Et elle aimait se promener avec son guépard, elle lui avait même acheté un collier avec des diamants.
C'était comme un chat.
Ah, comme un chat.
D'accord.
Comme un gros chat.
Et descendait les Champs-Élysées avec son guépard.
Avec son guépard, la foule applaudissait, surtout qu'elle était très mal. Elle avait une démarche un peu féline.
Ouais. Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Comme le guépard.
Et ce guépard n'a jamais eu de coups un peu sauvages. Ça s'est toujours bien passé?
Alors non, le problème c'est qu'à la fin, c'est toujours le problème ces animaux quand ils deviennent adultes, deviennent plus dangereux. Et elle habitait une grande maison au Vésiné. Le guépard s'est échappé. Il a jeté la panique dans l'entourage. Et quand elle est partie pour une tournée en Angleterre, elle a quand même été obligée de le remettre au zoo.
Ah bah
et
oui.
Ça l'a déchiré, hein. C'était comme s'il était mort.
Eh oui.
Ah, c'est ouais. Sûr. Alors, en parlant de zoo, justement, l'animal, ce que vous montrez dans votre livre, elle a toujours été un cadeau diplomatique de prestige entre pays. On s'offre des animaux. Alors, c'est toujours, c'est pas un chien, enfin, quoique, on a parlé du chien des présidents français, des labradors offerts en cadeau par le Canada. Mais on a aussi beaucoup d'éléphants qui ont été offerts, mais ça, c'est depuis des siècles.
Oui, puisque Charlemagne a reçu du roi des Perses un éléphant en 801. Et c'est un cadeau extrêmement prestigieux, qu'il a suivi d'ailleurs dans ses expéditions. Mais plus près de nous, on a Louis XIV et son éléphant du Congo.
Du Congo?
Oui, qui attirait et puis qu'on nourrissait avec du pain, de la soupe, on lui faisait boire du vin. En fait, c'est à l'époque qu'on nourrissait les animaux comme des hommes.
Ah oui, oui, oui. Ouais.
Ah, il buvait son vin tous les jours.
Exactement, exactement.
Non, mais en plus, imaginez l'expédition, quoi, cet animal qui a traversé des continents entiers pour arriver. Enfin, à l'époque, c'était incroyable.
Comme vous dites. Mais oui. Mais alors, plus près de nous, on a eu Caveri, qui est toujours vivante, d'ailleurs, qui a été offert au président Mitterrand. Par l'Inde.
Ah bon? Ah oui. Elle est où?
Ça a donné lieu à une grande fête à la Tour Eiffel.
Ah oui.
Et Caveri a eu des petits.
D'accord.
Elle a des bébés éléphants, ils sont opales.
Et je me rappelle aussi des pandas offerts au président Pompidou.
Oui, absolument. Oui, les deux premiers pandas que la France a reçus. Et on a le docteur vétérinaire du Jardin des Plantes était allé les chercher. On leur avait fait un stage pour leur expliquer. Et pour la Chine, c'était vraiment un cadeau diplomatique. C'est important. D'ailleurs, il était offert et on continue aujourd'hui. La Chine ne les offre plus, elle les loue.
Oui.
Mais c'est toujours une manière de marquer des relations diplomatiques. D'ailleurs, les historiens ont parlé de la diplomatie du panda. Tellement c'est important dans les relations entre pays.
Alors, il y a eu la diplomatie de la girafe.
Oui,
l'arrivée de la première girafe qui a foulé le sol français. Alors là, c'était un événement national.
Ah ben, on n'avait jamais vu de girafe.
C'est ça.
Et puis, c'était un animal qu'on trouvait hybride, bizarre.
C'était en quelle époque?
Ça se passe en 1828, et la girafe avait été offerte par le pacha d'Égypte au roi Charles X. Donc, quand la girafe est arrivée à Marseille, elle a passé l'hiver, parce qu'il faisait trop froid, et ce qui mettons pour remonter jusqu'à Paris. Et ensuite, elle a fait quand même 800 kilomètres à pied, avec ses accompagnateurs, dont Geoffroy de Saint-Hilaire, le directeur du muséum, et sur son passage, les foules se pressaient. Il fallait des fois que la gendarmerie intervienne. Et il y a eu après ce qu'on appelait une véritable girofamania avec les coiffures à la girafe, c'est-à-dire un chignon très haut, les ceintures, les papiers peints. Enfin, ça a été vraiment un engouement extraordinaire.
Et elle a fait quand même 800 kilomètres à pied.
Alors, on lui avait fait une sorte de cape en toile cirée pour la protéger des intempéries.
Ah oui.
Et on lui avait même confectionné des petits chaussons pour le sol était trop mauvais.
On lui avait pas mis un petit chapeau non plus.
Non, on lui avait quand même pas mis un chapeau.
Ça n'a pas été facile de mettre un chapeau à une girafe en plus, hein. Ça ne doit pas être facile.
Non, en mettant deux petits trous pour les
petites
oreilles.
Et oui, pour les petites oreilles.
Et je crois qu'elle a ensuite été à la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est ça?
Oui, dans la rotonde, on lui a aménagé un appartement confortable, comme on disait, et la foule des Parisiens se pressait. Alors c'est drôle parce que les ventes de roses, je parle des fleurs, ont beaucoup augmenté parce que quand elle était arrivée à Saint-Cloud, le roi lui a fait manger des pétales de roses dans sa main. Donc elle était réputée adorer les roses. Donc les gens qui allaient la voir achetaient des roses pour la nourrir.
J'espère qu'elle n'avait pas des quintes de vin aussi.
Non, elle non. Non, pas que je sache, non.
Bon, pour finir, Michael Jackson, alors.
Ah, Michael.
Oui. Alors, c'est quoi son singe?
Alors, son chimpanzé, Bubbles, c'était son enfant. C'est lui-même qui utilisait ce terme. Et pendant une période, il ne s'en séparait pas au point de le mettre en scène avec lui. Et puis, il dormait dans sa chambre, il mangeait à table. Et bon, c'est atteint, j'irais, un niveau près étonnant, parce qu'un temps, Michael Jackson avait demandé à un médecin si on pouvait pas même lui faire greffer des cordes vocales.
Des cordes vocales?
Oui, parce qu'il trouvait que ce singe, c'était, comme il disait, son enfant. Oui. Et en fait, d'ailleurs, il ne s'en est séparé que quand il a eu lui-même des enfants humains, et le chimpanzé est devenu plus dangereux. Mais lui aussi, il vit encore. Il est dans un centre pour grands singes en Floride.
D'accord.
Oui, parce que rappelons que Michael Jackson avait un mini-parc aussi d'attractions incroyable, un peu comme un Disneyland perso, avec un mini zoo et énormément d'animaux.
Beaucoup d'animaux. Mais Bubbles ne vivait pas avec les autres. Il vivait vraiment avec lui.
Il avait un statut privilégié.
Exactement.
Incroyable.
Merci Marie-Hélène.
Merci à vous.
Merci, c'est vraiment très intéressant, passionnant ces histoires.
À découvrir dans cet ouvrage, à lire cet été, forcément.
Ah oui, parce qu'on a vraiment, on a parlé de quelques histoires, parce qu'il y en a énormément d'autres, dans Histoire des animaux célèbres, qui viennent paraître aux éditions Perrin.
Merci beaucoup Marie-Hélène.
Merci Bellac. Hélène, bon dimanche.
Au revoir.
Laetitia, alors bon, les animaux, on va dire, de personnalités connues, ça c'est fait. On va s'attaquer dans un instant, après la météo, les infos de 7h30, aux insectes.
Eh oui.
D'accord.
Et je vais vous pousser à aimer les insectes.
Bon,
vous allez voir.
On va voir. Parce que c'est vrai que là, j'ai plutôt un a priori. Et puis juste après, on découvrira le quotidien d'une vétérinaire rurale.
D'un vétérinaire
rural. Et il sera avec nous, au téléphone. 32-16 pour nous joindre. N'hésitez pas, c'est le week-end des experts, les animaux. À tout de suite. Laetitia. Ouh là 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 là, il est venu. Il n'est pas content. Non, en fait, c'est le générique de la question flash qui commence, vous savez, comme pour les films. Et oui, en moins de 2 minutes maintenant, Laetitia, pour notre question flash, vous vous engagez à répondre à la question de Pascal que nous avons reçue par mail, animaux@rmc.fr. Ma chienne de 2 ans ne sait pas jouer avec ses congénères, Laetitia. Elle devient hystérique à leur contact. Je ne sais plus que faire.
Ah ben, votre chienne n'est pas socialisée aux autres chiens. C'est-à-dire qu'à mon avis, pendant son enfance, en tout cas sa petite enfance, vous l'avez tellement surprotégée que vous l'avez, qu'elle a été exclue des autres chiens et du coup elle ne sait plus parler chien. C'est-à-dire quand elle voit arriver un chien, elle ne sait pas si c'est pour jouer, pour l'attaquer, pour autre chose. Donc du coup elle devient hystérique parce qu'elle a peur. Elle a peur des autres congénères parce que elle ne sait pas parler leur langage. Alors il faut lui réapprendre à parler chien.
Alors comment faire? Parce que moi j'ai perdu l'habitude, je ne sais plus parler chien.
Et surtout il faut lui donner de la confiance, il faut qu'elle ait confiance en ses congénères. Alors d'abord il faut les mettre en présence de chiens débonnaires.
D'accord.
C'est le vieux labrador super sympa qui arrive, qui vient la voir, qui veut pas forcément jouer.
D'accord.
Voilà, des chiens équilibrés mais débonnaires, équilibrés. mais non joueur, pas forcément joueur, qui là, voilà, elle se dit bon bah les chiens, ça peut être sympa, ça peut être des copains. Et puis après, bah la maître, alors peut-être aussi se faire aider par un éducateur canin avec d'autres chiens qui eux veulent jouer. D'accord. Et peut-être aussi avec des chiots. Parce que vous avez les chiots, elle en aura pas peur, c'est des chiots. Donc au début, elle va s'en méfier, puis après, elle va rentrer dans leur jeu et puis comprendre un petit peu aussi le langage du chien. Et puis il faut la rassurer, faut vraiment la récompenser par des caresses dès qu'elle approche un autre chien sans en avoir peur. Donc faut vraiment, ça va être petit à petit, ça va prendre des mois, mais mettez-la en présence de chiots ou de chiens débonnaires.
Tout simplement.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts sur RMC, c'est encore une demi-heure à passer ensemble avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui, vous le savez, m'accompagne chaque dimanche 6h-8h. Ensuite, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, ce matin, on déguste de belles histoires liées aux animaux et après avoir découvert quelques histoires étonnantes d'animaux qui appartenaient à des personnalités, maintenant on va s'intéresser aux insectes.
Eh oui, parce que même si ce sont les mâles aimés quand même des animaux, les insectes, on va voir, grâce à Vincent Alboui, qu'ils peuvent être très fascinants. Donc nous avons avec nous Vincent Alboui qui est entomologiste, président de l'Office pour les insectes et l'environnement et auteur d'un livre remarquable qui s'appelle « Histoire remarquable, les insectes » aux éditions de Lachaud et Niesley.
Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, rendez-nous les insectes fascinants. En tout cas, il y en a certains qui sont vraiment incroyables. Alors, parlez-nous d'abord d'un insecte qui nous aime bien, au point de s'immiscer dans notre lit la nuit, c'est-à-dire la punaise des lits.
Voilà, alors, je ne sais pas si avec elle, je vais rendre les insectes sympathiques, mais c'est un insecte qui est intéressant à deux titres, intéressant entre guillemets. Le premier titre, ce sont ses mœurs qu'il partage avec d'autres punaises, qui sont des mœurs sexuelles assez spéciales.
Ça va plaire à François, ça.
Voilà. Ouais. C'est donc un insecte qui a ce qu'on appelle une fécondation traumatique extra-vaginale, c'est-à-dire que les messieurs sont munis d'un pénis armé de fortes épines et ils ne pénètrent pas par le vagin, mais ils percent la cuticule.
Ah, carrément.
Envoyer leur sperme dans le sang. Alors, chez les insectes, le sang n'est pas dans des vaisseaux, mais ils baignent, en fait, les organes baignent dans le sang en général. Donc, et le sperme dans le sang va aller féconder la femelle. Alors, ça a donné chez ces punaises, dont la punaise d'Élie, des mœurs parfois assez bizarres, et notamment, c'est l'un des rares cas d'homosexualité attesté chez les animaux, puisque chez certaines espèces, les mâles se perforent entre eux. Leur sperme migre vers les spermathèques du mâle qui a été perforé. Et ensuite, quand ce mâle va féconder une femelle, c'est le sperme de l'autre mâle qui va féconder la femelle. Donc vous voyez, c'est carrément club échangiste et partout à trois.
Ça veut dire que la femelle, elle peut avoir plusieurs perforations.
Ah oui, il y a des femelles, malheureusement, si vous avez un peu trop de mâle par rapport aux femelles disponibles, c'est un véritable trou, là. C'est fini. Enfin, heureusement, il ne perce qu'un endroit précis du corps. Donc c'est pas trop grave, mais non, il y a des...
Elle s'en remet après.
Oh oui, c'est assez solide, c'est trop solide. Alors c'est trop solide, pourquoi ? Parce que donc la punaise d'Élie, c'est un parasite de l'être humain qui agit la nuit et qui se cache le jour et qui donc va nous piquer quand on est dans notre lit, d'où le terme de punaise d'Élie.
Mais oui.
C'est une piqûre indolore sur le cou, donc ça nous réveille pas. Par contre, le lendemain, ça nous gratte. Beaucoup. Et elle a une caractéristique depuis quelques années assez peu sympathique, c'est qu'elle est résistante maintenant à quasiment tous les insecticides. Ce qui fait qu'elle, après avoir disparu d'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'hygiène généralisée a permis de la faire disparaître, elle est revenue notamment via les hôtels de luxe australiens, puisque le vrai bug de l'an 2000, c'est cette punaise. Le bug en anglais, ça veut dire punaise, punaise d'Élie. Et en l'an 2000, on a détecté en Australie une population de ces punaises résistantes à tous les insecticides qui peuplaient les hôtels, y compris les hôtels de luxe. Et la mondialisation du tourisme est ainsi faite que maintenant, par leur valise, les voyageurs ont transporté cette punaise un peu partout, y compris en France, à New York, partout où il y a de l'hébergement collectif, maintenant, il y a cette punaise d'Élie.
Et c'est un vrai problème pour les hôtels. Hein.
C'est un vrai problème pour les hôtels. Il y a même eu en 2004 la compagnie italienne ferroviaire qui a dû retirer quelque temps du service plus de 200 wagons-lits pour les désinfecter.
Incroyable, oh là là.
Donc voilà, donc les insectes parfois sont très tenaces malgré tout ce qu'on peut faire pour essayer de s'en débarrasser. Et à notre grand regret, c'est pas forcément les bons insectes qui résistent le mieux. On souhaiterait que les abeilles résistent autant aux insecticides que font les punaises de lit.
C'est sûr. Alors, petite dédicace à ceux qui sont actuellement à la mer.
Ou dans le lit?
Non, on passe de ceux qui vont à la plage. Là. Il faut savoir qu'il existe des insectes marins, c'est ça? Une autre punaise d'ailleurs.
Une autre punaise. Alors, les insectes sont marins sont très rares. Alors, en fait, les insectes sont essentiellement terrestres ou alors dans les eaux douces. Mais il y en a quelques-uns qui ont reconquis ce qu'on appelle la zone de battement des marées, c'est-à-dire là où la marée monte et descend. Alors, ils sont restés aériens, ceux-là, parce que ils respirent, en fait, quand la marée est haute, ils sont dans des fissures et ils respirent sous l'eau. Ils respirent cette eau sans avoir besoin d'être à la surface. Maintenant, les vacanciers auront du mal à les voir parce que c'est quelques millimètres de long.
Ah oui.
Les spécialistes doivent bien chercher pour les trouver. Mais il faut savoir que ça existe, ces petits insectes marins, et qu'il y a des punaises qui ne nous posent pas de problème, puisque jamais personne ne s'est plaint des punaises des plages. Donc, il y a quand même des insectes sympathiques. Et il y a une autre espèce, alors là, c'est ou des petits coléoptères ou des petites punaises qui sont dans ce milieu-là. Mais il y a un groupe d'espèces qu'on appelle les patineurs du grand large, qui sont des insectes qui ressemblent à ceux qui patinent à la surface de l'eau, qu'on voit très couramment chez nous, sur les mares par exemple. Et eux, ils sont réellement marins au sens où ils n'abordent jamais sur les côtes. Donc les adultes patinent à la surface, les larves patinent à la surface, ils ont donc des bouées de sauvetage qui leur permettent
de résister. Ils ont des patins ?
Voilà, ils patinent, c'est-à-dire qu'il y a deux pattes qui servent à attraper les proies et à se nourrir, et puis il y a quatre pattes qui reposent toujours sur l'eau. L'abdomen aussi, enfin le corps a des poils hydrofuges sur le ventre, et donc un peu comme des catamarans, ils flottent avec ces patins et ce corps, cette bouée sur le corps, ce qui fait que même quand il y a des tempêtes ou autres, ils arrivent à s'en sortir et à se maintenir. Maintenant, leurs œufs, eux, ne sont pas munis de cette bouée de sauvetage, donc ils sont obligés de pondre sur des objets qui flottent. Alors, avant l'homme, c'était des algues, des plumes d'oiseaux, des choses comme ça, des morceaux d'arbres entraînés depuis les continents, enfin des morceaux de bois flottants. Et depuis que nous polluons allègrement les mers et les océans, on sait que, enfin, certains de vos auditeurs doivent savoir qu'il y a d'énormes continents flottants qui font que, notamment dans le Pacifique, qui fait 6 fois la surface de la France, ce sont des déchets plastiques accumulés dans des tourbillons.
Et qui sont des îles, voilà. Des îles virtuelles, quoi. Oui.
Ce sont des îles virtuelles qui sont à la surface et sous la surface. Et cette masse disponible commence à être conquise par ces insectes qui viennent pondre préférentiellement dessus, donc qui sont très nombreux. Et donc on voit que le nouveau continent créé par l'être humain n'est pas encore apparu, que les insectes sont déjà dessus. Donc ce sont des bestioles qui s'adaptent à tout et dont on aura quand même du mal à se débarrasser, même si parfois on le souhaite. Mais toujours pareil, ce ne sont pas forcément les espèces qui nous rendent le plus de services qui sont les plus résistantes à nos pollutions.
Alors, vous parlez aussi dans le livre d'un insecte que vous appelez le moucheron au bois dormant, qui intéresse grandement la NASA.
Oui, alors ça, ça montre les capacités d'adaptation des insectes. C'est un moustique, enfin c'est de la famille des moustiques, un chironome pour être précis, alors les moustiques nous embêtent en été parce que certains moustiques ont une adaptation aux pluies d'orage, c'est-à-dire que les femelles pondent sur un terrain sec et dès qu'il y a des pluies d'orage, les œufs éclosent, les larves se développent et une semaine après l'orage, on est piqué par les moustiques. Donc voilà, en ce moment il y a des orages dans le sud-ouest, il va y avoir des moustiques bientôt, je préviens les vacanciers. Mais celui-là, il vit dans une région, le Sahel, qui est si sèche que les rares pluies ne remplissent pas suffisamment les mares pour que la larve se développe jusqu'au bout. Donc en fait, la larve va se dessécher en même temps que la mare, elle va commencer son développement, elle va se dessécher à mi-parcours en quelque sorte, et elle va attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'une nouvelle pluie remplisse la mare et pour qu'elle puisse finir son développement. Donc c'est vraiment une comme la princesse au bois dormant.
Et oui, parce qu'elle reste vivante pendant toutes ces années.
Alors elle reste vivante, c'est compliqué à dire parce qu'elle n'a aucune activité biologique.
Tiens.
C'est, elle est desséchée totalement.
Ah oui.
Et on peut, sous cette forme-là, la congeler à moins de 270 degrés. On peut la mettre à plus 100 degrés. Ça la tue pas, elle revit. On peut la mettre dans une atmosphère sans oxygène, elle revit. Donc,
ah oui, c'est pour ça qu'elle intéresse la NASA.
Voilà, c'est pour ça que ça intéresse la NASA, parce que comme ils veulent, par rapport à la conquête spatiale, ils veulent faire des expériences dans les vaisseaux spatiaux, etc. C'est un passager qui n'a pas besoin d'être nourri. On le garde sous cette forme-là tant qu'on n'a pas besoin de faire des expériences avec lui.
Oui.
Il faut juste le réanimer au moment où on a besoin. De...
Ça veut dire qu'on veut envoyer des moucherons aux extraterrestres, hein, c'est ça?
Non, ça veut dire que par rapport à des expériences biologiques nécessaires, dans la mesure où pour l'instant les voyages spatiaux coûtent très cher et
ils
que le moindre gramme et vous avez des commissions à la NASA où chacun qui a une étude à faire se bat pour un gramme de matériel supplémentaire. Hein.
Oui.
Donc ça, c'est un matériel qui vraiment intéresse les biologistes. Parce que si vous envoyez des abeilles dans l'espace, par exemple, vous avez plusieurs milliers d'abeilles nécessaires. Elles respirent, elles consomment de l'eau, elles consomment de la nourriture. Donc vous voyez, elles consomment de la place. Là, nos moucherons, c'est vraiment un matériel d'étude du futur par rapport à cette... Ils aideront très probablement à la conquête spatiale pour ces raisons-là, parce que ce sont des voyageurs très parcimonieux qui ne prennent pas beaucoup d'oxygène, pas beaucoup de place et pas beaucoup de ressources.
Bon, pour finir, parlez-nous du ver à soie. Moi, j'aime bien la légende chinoise qui explique comment le ver à soie a été domestiqué par l'homme.
Voilà, donc le ver à soie, c'est une chenille. Et comme beaucoup de chenilles, quand elle a fini son développement, elle tisse un cocon pour se protéger. Et ce cocon est constitué en fait d'un fil unique qui est tissé par des glandes salivaires, les glandes de la bouche, qui s'enroule, que la chenille enroule autour d'elle-même.
Merci beaucoup Vincent pour toutes ces petites histoires passionnantes. Merci.
Voilà, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dans le livre Histoire remarquable, les insectes, aux éditions de La Chaux et Niasley. Et franchement, si vous avez des livres à lire cet été ou à faire lire à vos enfants, c'est vraiment remarquable. Voilà.
Merci encore.
Merci
on revient
beaucoup,
dans un instant, Laetitia. Et on va s'intéresser maintenant au quotidien d'un veto de campagne, Laetitia.
Oui.
Eh oui, parce qu'on peut imaginer que son quotidien n'est pas tout à fait le même qu'un veto qui est dans une grande ville.
Voilà, et il s'appelle le docteur Fourrure.
Il s'appelle le docteur Fourrure.
En tout cas, c'est le nom de son livre, c'est sorti aux éditions Les Arènes. Et il va nous expliquer un petit peu son quotidien.
Et c'est Sylvain Balto qui sera avec nous. Et puis juste après, ce sera notre vidéo LOLCAT, Laetitia. Voilà,
oui.
Que vous retrouvez sur la page Facebook de vos animaux sur RMC et qui vous fera passer un bon moment. À tout de suite, 3216 animaux@rmc.fr pour joindre notre vétérinaire. N'hésitez pas, à tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, le retour de notre week-end des experts, les animaux, toujours avec Laetitia Barlerin à mes côtés pendant encore quelques minutes avant de retrouver la météo, les infos de 8h et l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre vidéo LOLCAT aussi dans un instant. Mais auparavant, Laetitia, eh bien on va découvrir le quotidien d'un vétérinaire pas tout à fait comme les autres.
Eh oui, il s'appelle Sylvain Balto, il est auteur du livre « Docteur Fourrure » aux éditions Les Arènes. Sylvain, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes vétérinaire dans le sud de la France, en Haute-Garonne, et l'histoire de ce livre est d'abord l'histoire d'un blog qui s'appelle Boule de Fourrure, que vous avez créé pour raconter votre quotidien. Et ce blog, c'était plus qu'un loisir pour vous, c'était presque une nécessité, c'est ça?
Oui, il y a de ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en discutant avec mes clients ou en lisant des forums sur Internet qu'on manquait sérieusement d'une source... on va dire un peu scientifique, mais en même temps pas un article compliqué, etc., qui soit de la vulgarisation pour le grand public, pour expliquer ce que c'était que mon métier, puisque c'était que soigner des animaux, ou s'en occuper, casser un peu du préjugé à la fois sur mon boulot et sur la santé des animaux. Et puis, donc j'ai créé ce blog pour faire ça, pour commenter les textes de loi qui sortaient sur les chiens dangereux, dits dangereux à l'époque. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu, oui, parfois un vrai besoin de raconter ce que je me prenais dans la figure au quotidien quand c'était vraiment difficile. Donc le blog a aussi viré à ça, à me servir d'exutoire, on va dire, de prise à partie, de prise à témoin des gens qui me lisaient sur ce que c'était que mon boulot de veto. Voilà.
Voilà, et on découvre vraiment les coulisses d'un métier, parce que c'est vrai qu'on a des idées préconçues sur ce métier. Il y a des bonnes choses, il y a des choses émouvantes, poignantes, il y a beaucoup d'histoires tristes. Et alors, on va raconter par exemple l'histoire d'un chat qui a été le miraculé de Noël.
Ah oui. Alors, ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent, c'est-à-dire qu'on a, des gens qui arrivent à la clinique avec leur animal en se disant que tout est fichu, que c'est pas possible, qu'il s'en sortira pas, qu'il est trop vieux, qu'il est trop pourri, qu'il est trop ceci, qu'il est trop ça. Et puis parfois ils ont malheureusement tout à fait raison. Et puis d'autres fois, non, il y a des choses qui paraissent horribles à voir comme ça pour le propriétaire de l'animal et qui finalement sont pas forcément trop compliquées à gérer. Et ça, effectivement, c'est le cas d'un vieux monsieur qui m'avait déjà amené un chat plusieurs fois pour une très vilaine tumeur sur le ventre. Le chat était beaucoup trop âgé pour être opéré. Donc on gérait avec des médicaments, des soins locaux, des pansements, des toutes petites chirurgies faites sous local, des choses comme ça, un petit peu lui donner du confort tout simplement. Et puis le jour où il est arrivé, effectivement juste avant Noël, il patientait dans la salle d'attente et il venait vraiment pour l'euthanasie de son chat. Et ce très vieux monsieur, en fait, m'a mis ce chat sur les genoux. Et il attendait que je lui dise évidemment, voilà, c'est fini monsieur, on le pique, on arrête tout et tant pis. Et puis en fait non, c'était moche effectivement, c'était un truc un peu serré, un peu dégoûtant, un peu tout ce qu'on voulait, bref, mais c'était parfaitement gérable avec quelques pommades, quelques pansements, quelques comprimés. Et effectivement, sans trop y croire, le monsieur est reparti avec son chat dans son panier, il a vécu encore quelques temps, très bien d'ailleurs.
Ah ben voilà, c'est une belle histoire.
Et il a passé Noël avec lui.
Il a passé son Noël avec son chat exactement, sans vraiment, je crois, en partant réaliser qu'il repartait avec son chat dans sa boîte et non pas mort dans un carton. Et ça, c'est vrai que c'était très, très chouette. C'était pas de la grande médecine, mais c'était de la bonne médecine au sens où on donnait du confort à l'animal et beaucoup de plaisir à son maître. Et ça, c'était très bien.
Alors, vous soignez des chats, des chiens, on a compris, mais aussi des animaux de ferme. Quelle est l'histoire de vache qui vous a le plus marqué?
Alors, c'est une histoire... Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est arrivée il y a déjà quelques années chez un très vieux monsieur qui vivait tout seul avec sa mère dans une ferme paumée dans la campagne. Et ce monsieur avait gardé une vache. Le jour où il avait arrêté, pris sa retraite, son troupeau était parti, il en avait gardé une. Il avait gardé une très vieille vache, qui n'est pas très vieille avant quand il l'a gardée, et une vieille jument. Et il gardait sa vache et sa jument. Et puis, les bestioles vieillissaient parce que ça peut vivre très vieux, en fait, ces animaux. On les envoie à l'abattoir relativement jeunes, si on peut dire, quand elles ont fini leur carrière, les vaches. Mais en fait, une vache, ça peut vivre vieux. Mais après, quand ça vieillit, c'est comme tout le monde. Ça fait de l'arthrose.
Et oui.
Ça fait des problèmes de vieux, ça a du mal à se lever. Et bref, un jour.
Une vache avec de l'arthrose, c'est peu commun, quand même.
Hein. Voilà. Et effectivement, un jour, cette vache qui était pleine d'arthrose s'est cassée la figure, et manque de bol, elle s'est cassée la figure sur le papy. Donc elle lui est tombée dessus, s'est trouvée coincée dessous dans l'extracteur à fumier de son étable. Il était pas dangereux, mais il était coincé. Puis comme il était tout seul avec sa très 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 vieille maman qui n'entendait strictement rien, il a pu s'époumoner tant qu'il voulait. Elle a quand même fini par se poser des questions au bout d'une heure ou deux parce qu'il revenait pas. Et elle a trouvé, il faut l'imaginer, la vieille dame avec son déambulateur complètement sourde, essayer de trouver où était son fils, pas beaucoup plus jeune que lui. Et puis effectivement, elle a trouvé, dans l'étable, coincée sous la vache. Donc elle a appelé les pompiers jusque là. Tout à fait logique. Et puis les pompiers m'ont appelé après moi, parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de rentrer dans l'étable, la vieille jument essayait de défendre la vache et son patron en chargeant les pompiers. Et donc les pompiers étaient bien embêtés. Avec ce jument qui les chargeait à chaque fois, la vache coincée au fond, le papy en dessous, ils savaient absolument pas quoi faire de tout ça. Donc je suis arrivé là-dedans pour attraper la jument, la mettre de côté, la calmer un petit peu, et puis relever la vache avec les pompiers, gérer un peu son arthrose, ses douleurs, comme on le ferait pour n'importe qui, je dirais. Et puis elle a continué sa petite vie tranquille encore quelques temps, jusqu'à ce que vraiment elle puisse relever, quoi.
Et donc le propriétaire de la vache n'a pas trop souffert d'avoir eu quand même une énorme vache sur lui.
Il a eu beaucoup de chance parce que étant coincé dans les extracteurs à fumier, c'est des espèces de rainures dans le sol très profondes, on est un homme sans problème, et donc il était coincé mais pas écrasé.
D'accord.
Donc finalement ils sont très bien tiré, lui, juste quelques bleus et une grosse peur, mais je crois qu'il avait plus peur pour sa vache que je la pique tout de suite qu'autre chose, en fait. Et finalement, non, c'était pas arrivé non plus.
Alors, vous parlez aussi dans votre livre d'un petit cochon qui est devenu la raison de vivre d'un marginal.
Ouais, ça, c'était une histoire très difficile. C'était assez violent comme affaire. Un type que je connaissais pas du tout, qui m'appelle à une heure, je sais plus, à 11h le soir ou quelque chose comme ça, pour me dire que je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Il parlait à toute vitesse, il mangeait ses mots. Mais en gros, tout ce que je comprenais, c'est qu'il paniquait au sujet d'un petit cochon qu'il avait récupéré et qui était en train de mourir et qu'il avait déjà fait du bouche à bouche à son cochon, mais que ça suffisait pas. D'accord, ok, ça a l'air urgent, ça a l'air pas aller du tout. Alors il faut comprendre que les cochons, globalement, on les soigne pas, ou en tout cas on les soigne pas individuellement comme on soignerait un chien ou un chat, parce que c'est pas des animaux de compagnie du tout. Les éleveurs de cochons, ils ont plutôt des centaines, voire plus de cochons, et quand un petit cochon va pas bien, ils font pas de frais vétérinaires dessus, quoi, hein, sauf si c'est très simple, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Alors là, il était évident que c'était plus un cochon de compagnie, on va dire, vu ce que nous disait le monsieur. Donc bon, d'accord, je lui dis, je viens. Et puis tout d'un coup, il s'est affolé de savoir combien ça allait coûter. Donc, une visite de nuit, déplacement, etc. Bon, oui, ça va coûter pas mal d'argent. Beaucoup plus que ce que nous vaut en théorie un cochon, en tout cas. Mais ça, c'était pas tellement la question, puisque c'était un animal de compagnie. Sauf que lui n'avait pas les moyens. Bon, enfin bref, on a discuté un peu. Je suis venu quand même parce qu'il n'était pas trop loin de chez moi. Et je me suis dit, allez, on y va. Et je suis arrivé dans cette espèce de ferme qu'il était en train de retaper de ses mains, parce qu'il faisait tout seul, hein, et puis il faisait plutôt du bon boulot d'ailleurs, mais bon, bref. Et il y avait ce petit cochon en train de mourir, littéralement, devant le petit radiateur de la salle de bain, qu'il avait mis là pour le réchauffer. Il était persuadé qu'il s'était empoisonné parce qu'il avait mangé un mégot ou un truc comme ça.
Bon, ouais.
Non, pas une histoire comme ça, c'était, je sais pas ce que c'était, mais c'était clairement un animal qui était en train de finir d'agoniser. Et qu'on ne ramènerait pas, quelle que soit la cause de son problème. Et il était juste en train de souffrir.
Terriblement, ouais.
Alors, voilà. Et donc, bon, l'euthanasie s'imposait absolument. Il y avait malheureusement pas d'alternative. Et bon, je suis descendu après un petit peu de discussion avec le monsieur pour recadrer tout ça, pour aller chercher ce qu'il fallait dans la voiture. Et là, il a eu un geste que j'ai pas vu souvent. En fait, il m'a bloqué la main. Il m'a dit non, je veux assumer jusqu'au bout. Et c'est moi qui vais faire la piqûre. Bon, ce qui m'a mis un peu mal à l'aise, parce que c'est pas le genre de produit que j'aime laisser dans les mains de quelqu'un.
Oui, puis c'est un peu interdit aussi.
Ouais, c'est interdit. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une situation. Il serait totalement interdit que je lui laisse un flacon de ce genre de produit, mais que je sois à côté et que je le laisse pousser sur le pied. Je crois que personne n'a prévu une loi pour ça. Et tant mieux. Et donc, je l'ai accompagné effectivement dans ce dernier geste, quoi, hein, qui était pour lui la nécessité. C'était vraiment une nécessité pour lui, en fait. Et voilà.
Bon, bah écoutez, voilà, bon, c'est une histoire un petit peu triste, mais malgré tout qui reflète un petit peu votre quotidien aussi. Hein. On a vu qu'il y a des histoires,
des liens qu'on peut avoir avec l'animal, quel qu'il soit.
Ouais, c'est effectivement moi ce à quoi je m'attache le plus, c'est-à-dire discuter, étudier, pas étudier, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas parler des liens qu'il y a entre les gens et les animaux, qui est vraiment ce qui est le truc le plus riche et le plus varié dans mon boulot, j'ai envie de dire, au-delà de la médecine en elle-même.
Et les clients aujourd'hui ne vous disent pas cette histoire, vous allez la raconter sur votre blog ?
Non, parce que je vais garder un certain anonymat qui me laisse relativement tranquille dans mon boulot. J'avais pas du tout envie que ça me serve de pub ni que ça devienne une
contrainte. Oui, bien sûr, on comprend.
Voilà. D'ailleurs, Sylvain Balto, c'est un pseudo.
C'est un pseudo.
Voilà.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes auteur de Docteur Fourrure aux éditions Les Arènes.
Ah, voilà, disponible dans toutes les bonnes librairies. Laetitia, pour se dire au revoir, notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Est-ce que vous avez vu déjà, ou si vous avez peut-être déjà assisté à un chien qui court, qui poursuit son maître pour l'arroser? Non, ça s'est jamais arrivé, ça.
Elle est hilarante.
Et bien voilà. Et vous avez un chien, donc tout noir, avec un tuyau dans la gueule, qui arrose son maître et qui le poursuit partout. Et le maître est trempé.
Il est trempé.
Et c'est
en
très
plus,
drôle.
Le maître essaye de fuir, mais le chien,
Le
tuyau est très très long. Donc il le suit vraiment dans tout le jardin.
Et il vise parfaitement le chien en plus.
Il vise bien.
C'est vraiment très drôle.
Et le maître est trempé.
À découvrir donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et vous cliquez sur j'aime, merci d'être là. Laetitia, rendez-vous dimanche prochain.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche, de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Et puis bien sûr, nous sommes au rendez-vous la semaine prochaine pour la rentrée.
Voilà, et dans un instant, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Mouroy, tout de suite.